Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
L'optimisme de Rem Corsia, grand rabbin de France, est aussi profond que contagieux. Dans son dernier livre déjà, Réinventer les aurores, il proposait un véritable plaidoyer du bonheur retrouvé et de la jubilation. Une aspiration qui n'a pas été entachée par l'actualité de ces derniers mois, une actualité particulièrement douloureuse et éprouvante, il parsème son nouveau livre de méditation rédigé sur le vif. Entre les mouvements des gilets jaunes, l'éco-anxiété, le Covid et toutes les guerres qui nous entourent, certains seraient tentés d'y lire une sombre destinée, Rem Corsia y insuffle au contraire un vent d'espérance, une tornade d'espérance même. Comme l'espérance est violente, c'est le titre de ce nouvel ouvrage. Le grand rabbin, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, y déchiffre notre présent aux prises de leçons bibliques et talmudiques. Il convoque aussi les plus grands poètes, Apollinaire avant tout, et Indiana Jones fait même une apparition lui aussi, une lecture qui nous aide assurément à mieux vivre dans le monde que nous habitons. Un grand merci, monsieur le grand rabbin, d'être dans notre studio pour en parler. Alors, vous avez choisi pour illustrer la couverture de votre livre un tableau de Pierre Soulages. Pierre Soulages, qui est connu comme le grand peintre de l'Outre Noir, pourquoi illustrer un livre sur l'espérance avec un tableau, au premier abord, très noir?
En fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est étonnant, hein?
Qui l'a choisi?
Colette Soulages.
La femme de Pierre Soulages.
L'épouse de Soulages, 103 ans. Je la vois à Paris, j'ai toujours une relation privilégiée avec eux. J'étais très proche d'eux, je suis toujours. Quand Pierre Soulages est mort, j'étais à ses obsèques ici à Paris et j'ai toujours gardé un lien avec Colette. Je l'ai vue récemment, il n'y a pas très longtemps à Paris. Je voulais impérativement l'emmener visiter l'exposition Rothko à la Fondation Vuitton. Ce que j'ai fait. Elle a 103 ans, sur son fauteuil, on l'a fait visiter. C'est un moment hors norme. Celle qui a accompagné le travail de son mari toute sa vie, voyant le travail de Rothko qu'elle avait connu. Ils étaient en lien assez fort, le Rothko et Soulages. Et puis je lui dis, Colette, vous savez, pour mon dernier livre, Réinventer les aurores, Pierre m'avait proposé une toile et il avait accepté que je l'utilise. Est-ce que vous accepterez que je reprenne une toile de Pierre pour mon prochain livre? Elle me dit, oui, de quoi il parle? Et je lui dis, moins bien que vous, ce que vous venez de dire. Que l'espérance, elle a quelque chose de violent, parce qu'il faut se lever. On ne peut pas attendre que tout vienne des autres. On ne peut pas faire la moue, être enfermé sur soi et dire « je veux être heureux ». Tu ne peux pas être heureux si tu ne décides pas de sourire à la vie. Donc, il y a une violence là-dessus. Elle me dit « ok, je vous envoie quelque chose demain ». Elle m'envoie cette œuvre, qui pour moi décrit parfaitement ce que je voulais exprimer dans ce livre. Et donc, évidemment, c'est elle qui a choisi. Moi, j'ai voulu, elle a accepté. Elle m'a offert le droit d'utiliser cette œuvre. Et je trouve qu'elle dit beaucoup, comme vous l'avez si bien dit sur l'Outre Noir, elle dit beaucoup de la capacité de l'espérance à faire apparaître de la lumière dans ce qui nous paraît, a priori, d'une absolue obscurité. Et je repensais à l'œuvre de Wiesel, La Nuit. Il ne faut jamais voir la nuit seule. Il y a la nuit, c'est un triptyque en fait, mais il y a la nuit, l'aube. La nuit, l'aube. Comme dans la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et Apollinaire le dit. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Étonnons-nous des soirs, oui. Mais vivons les matins. Si vous n'êtes pas prête à vivre le matin, à quoi ça vous sert de vous étonner le soir? En fait, l'indignation des uns et des autres sur certaines choses, c'est formidable. Mais qu'est-ce que ça met en mouvement en vous? Et je pense que cette toile décrit parfaitement ce que je voulais dire, à savoir, on ne peut pas attendre tout des autres, de la société, de l'État. Qu'est-ce que nous, on va faire? Pour nous, d'abord. Et ensuite, pour les autres. Parce que si j'améliore le monde pour moi, j'améliore pour les autres.
En deux mots, pour les auditeurs qui ne voient pas cette toile, qu'est-ce qu'on peut y voir? Est-ce que vous pourriez la décrire?
C'est l'Outre Noir, très connu de Soulages, donc une toile sombre, mais avec des traits que moi je qualifiais des traits de lumière. Et cette lumière, elle vient de nous. C'est notre capacité à voir la lumière dans ce qui peut paraître d'une absolue obscurité. Je vais vous faire une expérience, si vous permettez. Il y a un prof qui prend une feuille blanche. Imaginez vos auditeurs, là, en ce moment, ils sont en train de conceptualiser la chose. Il prend une feuille blanche, il fait un rond noir au milieu, voilà, et il demande à ses élèves, parlez-moi de ça, une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, il relève toutes les copies et il voit tous les sujets de tous les élèves. Un a parlé de la centralité du point noir, la noirceur du point noir pour le deuxième, le troisième a parlé de la position du point noir comme à équidistance de chaque côté, le quatrième a parlé de l'obscurité absolue du noir, le cinquième de l'outre noir du noir, bref. Et ils se rendent compte que tous ont parlé du point noir qui occupe globalement 0,4% oui, de la page blanche et qu'aucun n'a parlé du blanc lumineux autour. Et dans notre vie, on fait à peu de choses près la même chose. Dès qu'on a un petit truc qui ne va pas, on focalise dessus, oubliant tout ce qui va bien. Moi, dans ma culture, dans ma religion, dans le judaïsme, tous les matins, on rend grâce à Dieu qu'on se lève, qu'on peut se lever, on peut respirer, on peut vivre. On le remercie de nous avoir remis en mouvement. Et au fond, on le remercie pour les choses pour lesquelles on ne remercie plus, on ne sait plus remercier, parce qu'on croit que ce sont des évidences. Et moi, je crois que prendre conscience de tout ce qui va bien, c'est un état d'esprit. C'est ce qui donne à certains un sourire qui leur permet de vivre et ce qui donne à d'autres cette absence de sourire qui leur donne une impossibilité de se projeter dans le futur.
C'est plus qu'un état d'esprit. À vous lire, on a l'impression que c'est presque un devoir moral qu'on doit s'imposer ouais, à nous-mêmes.
Dans le Deutéronome, cinquième livre de la Bible, chapitre 28, et verset 47. Il y a marqué la chose suivante. Tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous n'avez pas su servir l'Éternel, votre Dieu, dans la joie et dans un cœur entier et dans un débordement de tout. Pas parce que vous n'avez pas servi Dieu. Hein. La Bible ne dit pas, si vous ne servez pas Dieu, ça va chauffer pour vous. Elle nous dit, la Bible, servez Dieu, vous servez Dieu. Ok, formidable. Mais vous ne le servez pas dans la joie. Le débordement de tout. Tout ce qu'on ne fait pas dans la joie et le débordement de tout, c'est nul. Vous aimez quelqu'un, et vous l'aimez, si j'ose dire, réduit aux acquis. Je suis limité. Vous l'aimez, mais bon. D'ailleurs, je suis étonné. Les gens, par exemple, se mettent ensemble. Formidable. Mais pourquoi vous ne mariez pas ? On hésite. On te dit, donc en fait, tu ne l'aimes pas vraiment. Elle est mignonne, il est mignon, il est sympa, elle est sympa. Mais enfin, au-delà, tu ne veux pas t'engager plus. Ok, on veut s'engager un peu plus. On fait un pax. C'est un pax. C'est quoi le pax ? C'est quelqu'un qui n'ose pas se marier parce qu'il dit, on ne sait jamais si je veux partir, je veux pouvoir partir tranquille. Donc en fait, on fait les choses à minima. Tout ce qu'on fait à minima est une catastrophe. Donc il faut, y compris dans l'amour de Dieu, mais dans l'amour entre nous, dans l'engagement, dans le travail, dans l'écriture, dans le chant, dans la vie, il faut le faire avec un débordement de tout, c'est-à-dire avec joie. Voilà. Et même la mort. Vous me dites que j'ai cité Indiana Jones. Je crois que c'est dans une interview récente, ça les a fait tiquer, mais ils l'ont mis, c'était fair play. Je cite un grand philosophe qui s'appelle Maximus Decimus. Qui est Maximus Decimus ? C'est le gladiateur dans Gladiator. Voilà, à chaque fois que je dis un grand philosophe, c'est que ce n'est pas un grand philosophe. En l'occurrence, Maximus dans Gladiator dit quand la mort vient, the only thing you can do is smile back. Qu'est-ce qu'on peut faire quand la mort qui vient ? On peut au moins lui sourire. Non pas gagner contre la mort, personne ne gagne contre la mort, mais lui sourire comme une sorte de façon de dire, même ça, je le vis dans la joie.
Quand on vous entend parler et quand on vous lit, on devine ce que vous venez de dire, une certaine joie de vivre qui vous anime. En tout cas, c'est vraiment l'image que vous donnez, toujours de bonne humeur, optimiste, joyeux. Ça semble être votre nature, mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui seraient habités par nature, par une certaine mélancolie, un certain pessimisme ? Comment rallumer les étoiles ?
Rallumer le feu. Il faut Johnny Hallyday. Il faut demander à Johnny Hallyday comment rallumer le feu. Vous avez utilisé le mot mélancolie et mon ami... André Comte-Sponville cite souvent Gérard de Nerval, qui avec une précision incroyable dit la chose suivante, « La mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. » C'est très fort. On est mélancolique et on voit les choses telles qu'elles sont. Et si je vois les choses telles qu'elles sont, j'envisage même pas qu'elles puissent s'améliorer, s'arranger, s'amender. Reprenons par exemple l'histoire biblique, ça comme ça. Les Hébreux sortent d'Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge, c'est infranchissable la mer. Derrière eux, 600 chars égyptiens arrivent. Si on voit la chose de manière mélancolique, avec la définition de Gérard de Nerval, c'est-à-dire, je vois les choses telles qu'elles sont, ils sont cuits. Et s'ils sont cuits, c'est, il y a une partie du peuple qui dit, bon, autant se suicider, autant finir tout de suite, on n'en parle plus. Voilà pourquoi Moïse dit, au verset 13 du chapitre 14 de l'Exode, n'ayez pas peur. Restez, regardez la délivrance que l'Éternel vous apportera. Car tout ce que vous avez vu en Égypte, vous ne le reverrez plus. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, taisez-vous. Ceux qui prient, leur dit, fermez-la. Ça sert à rien de prier là, maintenant, haut. Ceux qui voulaient combattre, pourquoi vous voulez combattre? Dieu va combattre pour vous. Ceux qui veulent rentrer en Égypte, laissez tomber, vous ne retournerez pas en Égypte, parce qu'on ne retourne jamais en arrière. Et ceux qui veulent mourir, pourquoi vous allez mourir? Faites confiance. À quoi? À l'espérance. Et je pense que quand vous instillez dans l'équation de la mélancolie du monde aujourd'hui, notre société est mélancolique. On vous dit, il y a la guerre en Ukraine, on va tous mourir, le gaz va être très cher, le pétrole il va augmenter, donc on ne va plus avoir d'argent, on est cuit, c'est fini. Il y a la guerre au Moyen-Orient, donc on pourra avoir, ça va être compliqué, patati patata. C'est vrai que d'ailleurs que l'antisémitisme augmente, ça va pas mal, les données sont terrifiantes. On vous dit que économiquement ça va être terrible, on vous dit que les Jeux Olympiques... Ça va être une catastrophe, les drones vont nous tomber sur la tête, il y aura des attentats, il n'y aura pas de métro, il n'y aura pas d'Airbnb, on ne pourra pas se baigner dans la Seine, enfin je ne sais pas quoi. Mmh. Tout, on vous parle, toutes les données sont catastrophiques. Et moi je dis, mais non. Regardez, le plus beau démenti, c'était la réussite incroyable de l'arrivée de la flamme à Marseille. Engouement populaire, une sorte de beauté, même esthétique. Bon, évidemment, moi je suis aviateur d'origine. La patrouille de France qui survole ce lieu comme s'il y avait le drapeau tricolore qui recouvre tout ça d'espérance collective. Magnifique. Donc en fait, il faut être capable de remettre de l'espérance dans cette sorte de mélancolie qui fait que des gens s'enferment dans le réel. Alors je ne dis pas qu'il faut être décalé dans une sorte de science-fiction, mais je dis qu'on peut s'extraire du réel en rêvant une forme d'espérance qui me permet d'ouvrir un horizon, donc d'ouvrir un chemin.
On peut changer la nature des gens.
Oui, oui, je crois. Vous si je vois quelqu'un... Le Talmud raconte une histoire merveilleuse. Merveilleuse. Et le Talmud dit qu'un jour, le prophète Élie rencontre un rabbin sur la place du marché de la ville. Et le rabbin dit au prophète, « Dis-moi dans cette assemblée-là, qui aura la plus belle part au monde futur ?» Il lui dit, les deux gars au fond, là-bas. Le rabbin va les voir. Messieurs, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien de spécial. Mais si, vous êtes des grands savants. Oh, pas du tout. Vous êtes des grands donateurs, des grands généreux qui aidez les... Ah, on n'a pas beaucoup de moyens. Vous faites quoi? Rien. Mais vous n'avez pas un truc spécial? Ils réfléchissent, ils disent, oui, il y a bien un truc qu'on fait. Dès qu'on voit le Talmud, ça a 2000 ans, et c'est très sérieux. Dès qu'on voit quelqu'un de triste, on lui raconte des blagues et on le fait rire. Au fond, apporter le rire dans le monde, c'est ce que moi j'appelle le tikkun olam, la réparation du monde. Ne jamais accepter les failles, les brisures, les échecs, jamais.
L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente.
Violente.
Vous avez emprunté ce dernier vers « Et comme l'espérance est violente » à Guillaume Apollinaire. C'est un vers tiré de son poème « Le pont Mirabeau » qu'il a écrit en 1912 dans « Alcool », qui est aujourd'hui donc le titre de votre ouvrage. Comment vous interprétez ce vers « La vie est lente et comme l'espérance est violente » ?
On aimerait toujours que tout se fasse tout de suite. Mais la vie est lente au sens que les choses elles vont pas aussi vite que nous. J'ai par exemple un axiome assez incroyable, qui peut surprendre. Dans la vie, à la fin, les gentils gagnent toujours. Et si les gentils ne gagnent pas, c'est que c'est pas encore la fin. Voilà. Et moi, je suis porté par ça, parce que dans le judaïsme, par exemple, on croit profondément à la venue du Messie, demain. Quand il vient? Aujourd'hui. Bon, allez, demain matin, je suis d'accord. Et s'il vient pas, je l'attends. Donc en fait, les choses peuvent paraître lentes, mais l'espérance, elle permet de casser cette lenteur qui semble nous enfermer dans un impossible. Et je pense que j'interprète ça comme étant la réponse à la lenteur de la vie où les choses ne se font pas. Mais lève-toi, vas-y, fais quelque chose. Je peux vous raconter une histoire, ça se fait à Khan Academy ou pas?
Je vous en prie. Alors,
c'est une histoire que j'adore. Allez-y. C'est quelqu'un qui va devant le mur occidental à Jérusalem et il prie Dieu. Dieu de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob, regarde, fais-moi gagner au loto. Je t'en supplie, mon Dieu, fais-moi gagner au loto. Et il prie toutes les larmes de son corps avec beaucoup de foi. Et à un moment, et pendant des mois, il prie comme ça. Et rien ne se passe. Il ne gagne pas. Et à un moment, il est devant le mur. Il prie peut-être plus intensément que d'habitude. Mon Dieu, je t'en supplie, fais-moi gagner au loto. Et là, une voix sort du ciel et lui dit, mon fils, je veux bien, mais joue au moins. Qu'en fait...
Je la connaissais, celle-ci.
Bah, formidable, si vous connaissez mes histoires en plus. Mais je crois qu'on est souvent dans cette situation. Autant elle nous fait rire, moi, elle me fait hurler de rire. Mais on est dans cette situation où on voudrait des choses, mais on ne fait pas les efforts pour. Combien de fois j'entends des jeunes, des moins jeunes, moi, je veux être médecin. Est-ce que tu fais les efforts pour? Tu veux être médecin, mais est-ce que tu bosses? Les gens pensent qu'on est médecin, c'est formidable, mais il y a des années de travail avant. Avocat, il y a des années de travail avant. Dans tout, les gens, ils veulent travailler sans apprendre. Donc, en fait, est-ce qu'on se donne les moyens de vouloir ce qu'on veut? Vraiment, je ne crois pas.
Ce que vous dites me fait penser au dernier mot d'Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo, personnage d'Alexandre Dumas. Il dit cela, « N'oubliez jamais que toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots, attendre et espérer. » Alors vous, j'ai l'impression que vous dites un peu le contraire. Surtout, ne soyez pas passif, l'espérance est un effort.
Non. Attendre et espérer, bon, vous êtes tombé parfaitement juste. Ce qui montre votre talent, c'est qu'Edmond Dantès, c'est un de mes grands héros. J'ai toujours estimé que dans Monte Cristo, il y avait... plusieurs choses incroyables. D'abord, la transmission. C'est pas anodin. L'abbé Faria lui transmet son secret. Ce que personne n'avait réussi à obtenir de lui. Edmond Dantès, par la pureté de son attachement à cet homme, réussit, sans lui demander d'ailleurs, à devenir le dépositaire d'une expérience. C'est pas anodin. Deuxièmement, bien sûr, c'est la vengeance, mais c'est pas la vengeance. Il se venge pas. Chacune de ses victimes, Morcerf, et même Mercedes, est victime de ses propres fautes. Lui ne fait rien. Il révèle chaque fois, ouvertement, ce que sont les gens. En fait, ce qu'il nous dit, et c'est très juste, je reprendrai votre argument, je suis d'ailleurs très coupable de ne pas l'avoir vu avant vous, c'est que tu ne peux pas espérer et dire « j'ai espéré, j'ai pas eu ». Et je vais vous dire où je vois ça. Dans le Lévitique, troisième livre de la Bible, au chapitre 28, verset 4, il est marqué, donc c'est le début du chapitre 28, verset 1, « Si vous allez dans mes lois, vous suivez mes commandements, tout ira bien, sera formidable pour vous, je vous donnerai de la pluie quand il faut, et les arbres donneront des fruits. » Et les commentaires demandent... ça, le grand truc, là. Les arbres donnent des fruits. Rachi, le célèbre commentateur champenois, 1040-1105, dit la chose suivante. Non, les arbres qui ne sont pas fruitiers donneront des fruits. Et moi, je pense que c'est ça. C'est la réponse à votre question. C'est que les arbres non fruitiers donneront des fruits. Parfois, dans la vie, on fait des choses et c'est un échec. Ça ne marche pas. Vous essayez, ça ne marche pas. Ça arrive. Vous avez envie d'écrire un truc... vous ne trouvez pas les mots, vous ne trouvez pas l'inspiration, vous faites 5 pages et puis vous bloquez, vous avez envie d'étudier un livre, et vous rentrez dedans mais vous ne rentrez pas dedans. Ça m'arrive, hein, des fois, il y a des livres, je break complètement, je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire, l'écriture est compliquée, je ne sais pas, il y a des échecs. Mais si on persévère, même les échecs donneront des fruits. Parce que rien ne dit que si, par exemple, parlons de moi. J'ai fait un DEA, vous savez même pas ce que c'était au siècle précédent. On avait un diplôme d'études approfondies, c'était un genre de truc entre la maîtrise et le doctorat. Bon, équivalent d'un doctorat aujourd'hui. Je fais un DEA à l'école pratique d'autres études. Dans le DEA, le principe, c'est de choisir 2 UV en dehors de mon domaine. vu la liste que j'allais faire chamanisme. Et j'ai eu deux UV d'unité de valeur sur le chamanisme, qui est vraiment pas mon domaine de
prédilection. A priori, non.
Donc on pourrait dire, oh, j'ai fait ça, mais ça sert à rien. Et bien, c'est pas vrai, ça a donné des fruits. Ça m'a permis de comprendre les liens entre les arts premiers, les peuples premiers, les Taïnos, les Arawaks, y compris les Mayas, les Incas, tout ce système tourné autour du chamanisme, comment au fond c'est une autre façon de traduire les mêmes attentes, les mêmes espérances, les mêmes craintes humaines qu'on peut le connaître dans les religions monothéistes. Au fond, dans l'impossibilité de donner des fruits, on ferme une histoire. Mais il y a toujours des fruits qui arrivent si on sait juste perdurer. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'obstiner, des fois l'obstination elle est idiote, mais ce que dit Edmond Dantès, à juste titre, c'est ne crois pas que si tu as espéré et ça ne marche pas, bah, tu as échoué. Non, attends. Tu verras, attends. Et des fois, l'attente permet de voir le résultat. C'est exactement ce que dit Apollinaire. Étonnons-nous des soirs, mais vivons les matins. Si vous n'êtes pas là pour vivre le matin, à quoi ça vous sert de vous être étonné le soir? Je trouve que c'est très cohérent. Et je reprendrai votre citation, je vais la retrouver dans le texte.
Je reviens au titre du livre, ouais. « Comme l'espérance est violente ». Je me suis posé la question en le lisant, quelle différence y a-t-il entre espoir et espérance? Il y a une dimension plus durable, plus spirituelle
espoir, dans l'existence. J'ai espoir de quelque chose, l'espérance, c'est un état d'esprit. Je cite un moment Tristan Bernard, ça m'a toujours bluffé ça. Tristan Bernard se fait arrêter par la milice avec sa famille, et il se tourne vers sa famille et leur dit « Écoutez bien, maintenant, ça change tout. Avant, on vivait dans la crainte d'être arrêté. Maintenant, on va vivre dans l'espérance d'être libéré. » Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il vaut mieux vivre dans l'angoisse et la peur d'être arrêté alors qu'on est libre? Ou est-ce qu'il vaut mieux vivre dans l'espérance d'être libéré alors qu'on est arrêté?
Alors,
au fond, il y a des gens qui vivent que au présent. Et il y en a d'autres, les génies, qui ont la force de s'extraire du présent, du réel, pour se projeter déjà dans le futur. On construit déjà le futur. Et moi, je sais que ça, c'est l'interprétation d'un psaume très célèbre qui dit « Lorsque l'Éternel libérera les captifs de Sion, nous étions comme des rêveurs. » L'organisation grammaticale de la phrase est bancale. Parce qu'on aurait dû dire « Lorsque l'Éternel libérera les captifs de Sion, nous serons comme des rêveurs. » Pourquoi nous étions comme des rêveurs? C'est parce que, les commentaires disent, c'est parce que ils ont été capables de rêver l'impensable que l'impensable s'est réalisé. Au fond, c'est ce que dit Edmond Flegg, dont on va célébrer les 150 ans de la naissance en novembre prochain, en novembre 24.
Et vous avez écrit un livre, il me semble.
Oui, j'ai des épreuves là, de relecture sur moi. Là, il faut que je fasse la relecture, ce que je déteste. Parce qu'une fois que j'ai écrit, j'ai plus envie de revenir dessus. Mais oui, je vais faire un livre, Ma vie avec Edmond Flegg, qui va sortir en septembre pour le 150e de sa naissance. Edmond Flegg, qui a beaucoup travaillé sur la notion d'espérance, dit la chose suivante. Oh, il faut que je vous raconte une histoire merveilleuse. Il dit, l'espérance n'est pas que l'espérance, elle est le chemin qu'indique l'espérance. Vous voulez l'histoire merveilleuse sur Edmond Flegg?
Allez-y.
Je suis à la fin de l'écriture et j'explique à l'éditrice que il manque juste un truc, je veux aller un quai aux fleurs, là où il habitait. Elle me dit, oui, mais vous connaissez, oui, je vais y aller. Non, mais, oui, je connais, j'ai vu sur Internet, il y a la plaque, je connais par cœur. Je veux aller un quai aux fleurs.
C'est où? C'est dans Paris?
Oui, c'est à côté. Bord de Seine. Et un de mes amis m'appelle. Il me dit, écoute, il y a arrivé un truc incroyable. J'ai dîné avec quelqu'un de chez Gallimard qui m'a dit que tu faisais un livre sur Edmond Flegg. Ouais. Mais c'est incroyable. Parce que... Donc, il m'a dit ça hier soir. Ce matin, je passais un quai aux fleurs. C'est ma route pour aller de chez moi à mon cabinet. Et je trouve un livre posé sur le parapet. En face du un quai aux fleurs. Ce livre, c'est un concept étonnant d'un monsieur qui s'appelait Lost, qui en 1955 demande à des écrivains, Claudel, Cocteau, Malraux, moi, 55, il leur demande « Il vous reste un quart d'heure à vivre, à quoi pensez-vous » Flegg répond à sa question. Et m'envoie ces 3,5 pages de Flegg, où tout ce que j'avais écrit, pensé de lui, se trouve vérifié. Sa passion pour sa famille, sa désolation de ne pas avoir transmis la vie à ses petits-enfants. Il a dédié ses premières œuvres à mes petits-enfants à venir. Il a eu 2 enfants, 2 garçons, 1 fils est mort pour la France. Et le deuxième est mort parce qu'on ne l'a pas laissé servir la France, il a été réformé. Et ça l'a tellement bouleversé de ne pas avoir le droit de s'engager pour la France qu'il s'est suicidé. Donc vraiment une souffrance terrible. Et puis cette fin. J'aurais triché sur ma vie si je n'avais pas espéré d'espérer tous les jours de ma vie.
Vous, vous avez écrit ce livre, Comme l'espérance est violente, avant les attaques du 7 octobre. En tout cas, vous l'avez commencé avant.
Je l'ai commencé, quasiment fini. Mais j'ai rajouté un chapitre sur le 7 octobre, parce que je pense que c'est ce que Bernard-Henri Lévy appelle très justement un événement, au sens quelque chose qui est une vraie brisure de l'histoire, une sorte de distorsion du temps, ce qu'on appellerait en économie un signe noir, quelque chose qu'on ne peut ni anticiper, ni expliquer a posteriori, quelque chose qui dépasse l'entendement. Et donc forcément, je ne pouvais pas ne pas parler de ça. Et je pense que ça transforme la vision qu'on peut avoir de la violence dans notre société. Nous ne savons plus intégrer la violence dans la société. Voilà pourquoi moi je parle de violence d'espérance. Violence, il y a. Alors autant que ce soit la violence de l'espérance.
C'est la seule qui est concevable,
oui,
selon vous.
Oui. Peut-être la violence de l'amour, parfois. Mais la violence de l'amour, il faut toujours la pondérer par le respect de l'autre. Parce que c'est pas parce que je suis rat-dingue de quelqu'un que je peux lui imposer mon amour. Donc en fait, la seule violence qu'on peut s'imposer, c'est la violence de l'espérance. Et la violence de l'amour, je vous le dis, doit être pondérée par le respect de l'autre.
Vous avez cette phrase « Il n'y a de coexistence envisageable que dans la mise en abîme dans le regard de l'autre ». C'est un travail d'imagination difficile, douloureux, vous dites, et qui, tant qu'il ne sera pas accompli, il n'y aura aucune chance de paix.
Il faut essayer de se mettre à la place de l'autre. Le Talmud dit, par exemple, ne juge jamais personne avant d'être à sa place. Mais comme on ne peut jamais être à la place de l'autre, on ne peut pas juger quelqu'un. Mais je pense qu'il faut s'imaginer à la place de l'autre pour savoir ce que l'autre ressent. Et je pense que c'est un effort à faire. Il y en a certains qui le font plus que d'autres. Mais c'est difficile, par exemple, pour les Israéliens, de discuter avec des gens qui leur nient toute possibilité d'existence. Et peut-être que c'est là, cet effort à faire, c'est d'envisager, de s'envisager dans le futur avec l'autre. C'est la chose la plus dure qui soit.
Quelle est la parole la plus porteuse d'espérance, celle des hommes qui nous gouvernent ou celle des poètes?
Celle des hommes qui nous gouvernent quand ils sont capables de s'inspirer par les poètes. Je pense toujours à ce moment d'anthologie. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais sinon, allez le voir. Georges Pompidou, président de la République, a fait des conférences de presse. Il est questionné par un journaliste sur un drame absolu. Une professeure était tombée amoureuse de son élève. Elle est emprisonnée. Elle se suicide. On lui pose la question. Il laisse passer un blanc. Comme si il puisait au tréfonds de son âme, non pas la réponse, mais une forme d'élévation. Je ne veux pas m'enfermer dans l'horreur du fait divers. Et il répond rien d'autre qu'un poème qui dit tout sans rien gâcher par les mots. Donc, pour répondre à votre question, les politiques, quand ils sont capables de s'inspirer de la poésie.
Vous, il y a un poète prophète très cher à votre cœur, on en a déjà parlé, c'est Guillaume Apollinaire. Vous nous donnez à lire, pour le plus grand plaisir, un de ses poèmes en entier, un poème dans lequel il nous invite à rallumer les étoiles. Est-ce que je peux vous demander de lire ce poème ?
Volontiers. D'abord, en plus, n'oublions pas qu'Apollinaire meurt, en fait, il meurt probablement de la grippe espagnole, mais il est trépané, il est blessé par un éclat d'obus, et il a quelque chose de profondément français par son engagement, lui qui n'est pas français au départ, et qui rêve de servir la France. Et c'est vrai que ce poème est merveilleux. Et tous mes canonniers attentifs à leur poste annoncèrent que les étoiles s'éteignaient une à une. Puis l'on entendit de grands cris parmi toute l'armée. Ils éteignent les étoiles à coups de canon. Les étoiles mouraient dans ce beau ciel d'automne, comme la mémoire s'éteint dans le cerveau de ces pauvres vieillards qui tentent de se souvenir. Nous étions là, mourant de la mort des étoiles, et sur le front ténébreux aux livides lueurs, nous ne savions plus que dire avec désespoir, ils ont même assassiné les constellations. Mais une grande voix venue d'un mégaphone, dont le pavillon sortait de je ne sais quel unanime poste de commandement, la voix du capitaine inconnu qui nous sauve toujours, cria « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Et ce ne fut qu'un cri sur le grand front français, au collimateur à volonté, les servants se hâtèrent, les pointèrent, les tireurs tirèrent, et les astres sublimes se rallumèrent, l'un après l'autre. Nos obus enflammaient leur ardeur éternelle, l'artillerie ennemie se taisait éblouie, par le scintillement de toutes les étoiles. Vous voyez, il n'y a pas que Johnny Hallyday qui rallume le feu, il y a aussi la capacité simplement à... En fait, ce qu'il dit, c'est, avec ces mots formidables, ce qu'il dit, c'est que parfois l'action permet de rallumer en fait les étoiles. l'espérance. Et vous remarquez d'ailleurs, il parle, il y a une description assez étonnante de quelque chose qu'il ne pouvait pas connaître, la maladie d'Alzheimer, et j'en vivais pas assez longtemps pour l'avoir. Mais oui, regardez, écoutez ça. Les étoiles mouraient dans ce beau ciel d'automne, comme la mémoire s'éteint dans le cerveau de ces pauvres vieillards qui tentent de se souvenir. C'est tellement...
Il l'avait pensé.
Ouais.
Vous dites qu'il faut prendre ce poème comme une boussole. Mm-hmm. Le judaïsme aussi, par ses textes, offre des pistes de réflexion intéressantes pour rallumer ces étoiles, contribuer à la pensée collective. Donc vous nous transmettez de nombreux exemples dans ce livre. Vous avez parlé tout à l'heure du Tikkun Olam. C'est un concept qui signifie la réparation du monde. Est-ce que c'est la principale tâche du rabbin de réparer le monde ?
Chez nous, il n'y a pas un rôle particulier du rabbin. Donc si c'est ma tâche, c'est la tâche de tout le monde. Tout le monde y contribue, vous savez. Chacun, chacune y contribue à sa façon. Le Talmud a une très, très jolie théorie qui dit « Le monde ne tient que par l'existence de 36 justes secrets. » Il y a 36 personnes dans le monde qui ne font que le bien et ils sont secrets à leurs yeux. Ils savent même pas qui sont ces justes, eux. Mais ils font le bien autour d'eux. Ils diffusent du bonheur, de la joie, de l'espérance. Donc, en fait, ils réparent le monde à leur façon. Et s'il n'y avait pas ces retisseurs, comme l'aurait dit Jacoté, ces retisseurs de liens, ces repriseurs du monde, le monde se déferait. Notre société se déferait. Parce que c'est tellement plus simple de s'enfoncer dans l'isolement, l'abandon de soi, des autres, l'indifférence. Et c'est un vrai défi que de se sentir responsable du délitement de la société. Donc, il s'agit de réparer, recoudre, réparer le monde.
Mais cette tâche est à la portée de tous.
Ouais. Chacun, chacune à son niveau.
Alors, les textes talmudiques nous donnent également des pistes de réflexion intéressantes sur l'écologie. Ça aussi, c'est assez étonnant. Vous nous dites que le judaïsme a donné avant tout le monde une juste définition du développement durable.
Ouais.
Expliquez-nous.
C'est dans la Genèse, au chapitre 2, verset 15, il est écrit « Dieu nous donne la terre ». En hébreu, c'est joli. « Léovda » ou « le Shomra » pour la travailler et la conserver. Sauf que comme longtemps on a travaillé sur des bibles qui n'étaient pas en hébreu, mais qui étaient de l'hébreu au grec, c'est la Septante, puis à partir du grec on a retraduit en latin, c'était la Vulgate, puis à partir du latin on a retraduit en français, donc on est arrivé à trois niveaux de traduction différents, jusqu'à ce que Nicolas Delire reprenne de l'hébreu au français à partir de l'interprétation et commentaire de Rashi. On est resté avec l'idée que ce n'était pas travailler, c'était asservir, dominer au sens d'asservir. Et donc on a toujours considéré qu'il fallait dominer la terre. Mais la traduction hébreu nous explique qu'il faut travailler et garder, et conserver. Et on peut donc dire que c'est travailler jusqu'à la conservation, la protection. Si j'exploite la terre et que mon niveau d'exploitation fait que je ne puisse plus la transmettre, je dois arrêter de la servir, de la travailler, produire avec. Je suis contre cette idée ridicule de la décroissance. Mais ce n'est pas de la décroissance. C'est une croissance pondérée par la capacité à transmettre aux générations après nous ce qu'on a reçu. Et ça, c'est la définition exacte du sustainment, c'est-à-dire développement durable de Gros Harlem, qui est une théorie de 1973. Et d'ailleurs, j'explique dans mon livre que le pape François, dans son encyclique Laudato Si, qui sort en 2015, juste avant la COP21 à Paris, révolutionne la COP21 parce qu'il propose cette lecture-là et tout le monde se positionne par rapport à ce texte incroyable du pape Laudato Si. Donc, on voit bien que la notion de développement et de transmission ne peut pas fonctionner. Aucune des deux ne peut fonctionner sans l'autre. Si on dit, il faut revenir à un état original, mais état original, ça n'existe pas. Il n'y aura aucun animal, par exemple, domestique dans la nature qui n'existe pas. Il n'y a aucune chance de vivre. C'est parce que nous nous en occupons qu'ils existent même. Donc, on voit à quel point il y a une interdépendance entre le travail et la conservation. L'exploitation et la conservation.
Alors, le judaïsme nous aide à penser l'écologie. Il y a quelque chose aussi à dire sur le télétravail. En quoi Abraham nous éclaire-t-il sur le télétravail ? Ça aussi, c'est assez étonnant.
Oui, des fois, je ne dis pas que je m'amuse, mais il montre qu'on peut faire les choses à distance Attention, télétravail aujourd'hui, c'est devenu, d'abord parfois, au moment du Covid, c'était une nécessité. Là, en ce moment, avec tous les embouteillages, ben, c'est pas mal non plus. Mais rien ne vaut les contacts réels, humains. Je suis persuadé qu'on a perdu beaucoup en transmission informelle de données entre nous, ce qu'on appelle la machine à café. Mais pas que. Le simple fait de se regarder, comment ça va? Je te sens pas bien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas ça. Et je reste toujours bloqué par un principe assez étonnant, qui est que la navette spatiale a explosé, probablement à cause de ce qu'on appelle les pas à l'époque du télétravail, mais au fait que la réunion go-no-go, est-ce qu'elle part ou elle part pas? Cette réunion s'est faite par visioconférence, on dirait ça comme ça. Ce qui fait qu'on a perdu les informations non formelles du langage. Par exemple, si vous me dites « est-ce qu'il fait beau ?» Je vois, bon, oui. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Mais si vous me dites « est-ce qu'il fait beau ?» et que je vous réponds « oui », vous avez compris en me voyant et avec la mimique que j'ai assortie à mon « oui », que c'est un « oui ».
Oui, votre état d'esprit.
Je suis un peu dubitatif. Mmh. Et ils ont fait la réunion comme ça. Et chacun avait un problème, mais ils ont tous dit bah, « c'est à l'autre de dire non, pourquoi moi je vais dire non ?» Et chacun dit oui, en se disant « les autres vont dire non ». Donc, un, ils n'ont pas perçu toute la communication informelle. Et deuxièmement, il y a eu unanimité, et c'est très dangereux qu'il y ait unanimité. Et alors, je fais remonter ça à Vram, parce que ça m'amuse. Mais je pense que, en fait, il y a à comprendre tout dans la Bible, si on veut chercher. Et parfois, tout est son contraire.
Le travail a pris une grande place dans nos vies quotidiennes, surtout aujourd'hui, il ne se conçoit plus sans écran, des écrans qui sont omniprésents. Le gouvernement cherche à les réguler activement en ce moment. Et vous, vous avez une proposition toute prête, instaurer un Shabbat numérique pour tous.
Et c'est une proposition. Oui, calmons-nous. Oui, vous avez raison.
Mais c'est une proposition sérieuse.
Oui.
Non, bien sûr, pas Shabbat.
Je ne veux pas le faire Shabbat, pas le samedi. Il n'est pas question que la France s'arrête de travailler le samedi. C'est avec une psychanalyste, une écrivaine formidable qui s'appelle Marie Balmary. Qui avait écrit un livre merveilleux qui s'appelle « Le sacrifice interdit », que j'ai réfléchi à cette notion de l'arrêt du travail. On n'est plus prêt à s'arrêter de travailler, puis c'est injuste. On ne veut pas travailler, le dimanche par exemple, je comprends. Mais on veut avoir du pain dans les boulangers, donc il faut que les boulangers travaillent. On veut prendre le métro, les bus, les trains, donc il faut que ça travaille aussi. On veut acheter si on a envie d'acheter, donc ça ne peut pas marcher. En revanche, on a proposé juste une chose, que le dimanche, on réintroduit ce déjeuner dominical qui est si important. Et qu'on puisse juste faire une petite diète numérique, un genre de micro-shabbat, le dimanche, qu'on ait un temps où on soit plus asservi à notre téléphone. Et je suis d'ailleurs impressionné de voir que vous n'avez pas votre téléphone posé sur la table comme si... Ah oui, cachez-le, je ne l'avais pas vu derrière le verre, derrière la tasse. Mais voilà, on a toujours ce fil à la patte. À moins qu'on attende une nouvelle incroyable, extraordinaire, le prince charmant vous a demandé en mariage, je ne sais pas quoi. Mais est-ce qu'on a besoin d'être toujours asservi à cet outil? Et d'ailleurs, avec un sentiment d'urgence qui fait que quand on vous envoie un message, 3 minutes après, on vous rappelle, mais tu ne m'as pas répondu. Ça va, je suis aux pièces. Donc en fait, avec Marie Balmary, on propose juste d'avoir ce retour à une forme d'humanité qui fait que je parle avec les personnes avec qui je suis. Je me retrouve à juste distance de l'autre, sans le truchement d'un appareil qui me donne l'orgueil, l'hybris de me sentir proche du monde entier. Ce qui n'est pas faux dans l'année, mais qu'on ait au moins quelques heures où on retrouve cette distance. C'est pas mal. Alors oui, on appelait ça Shabbat numérique, mais c'est plutôt diète numérique.
Ce sera ma dernière question. À qui s'adresse ce livre? Au pouvoir? À tout le monde?
Je crois que c'est à tout le monde. C'est vrai que... Je me pose la question aussi du pouvoir, mais par exemple, une de mes grandes rages, c'est que parfois, dans certains magasins, il est rangé dans le rayon religion. C'est pas un livre religieux.
Non.
Vraiment. C'est un livre sur la société. C'est un livre pratiquement de votre domaine. C'est un livre quasiment sociologique où je voulais expliquer des fois nos errements, nos erreurs et nos capacités à transformer les choses en commençant à nous transformer. Et donc juste à prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait, ou ce qu'on ne sait plus faire, ou à retrouver la capacité de faire, justement par l'espérance. Donc, il s'adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent contribuer à améliorer un peu le monde, j'allais dire, à réparer le monde.
Et je rappelle son titre, Comme l'espérance est violente, et c'est à découvrir aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je crois aussi que vous donnez des cours à l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. La prochaine conférence a lieu le 19 juin. Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce qu'on peut
toujours
s'y inscrire encore?
En plus, c'est sur tous les réseaux sociaux, donc
on mettra...
y a du monde devant et du monde aux écrans.
On mettra le lien sur la page de notre émission.
Merci
beaucoup.
Canal Académie.